BFM Business présente Les Experts sans frontières.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM Business. On est ensemble pendant une heure avec nos experts internationaux comme tous les vendredis. Aujourd'hui, l'actualité économique vue du Portugal et de la Belgique avec nos invités Anna Navarro, Adeline Percept. Nous serons aussi avec notre éditorialiste international Benaouda Abdedaïm. On parlera de l'assainissement des finances publiques, gros sujet brûlant en France dans notre actualité, de l'ingérence d'Elon Musk aussi dans les affaires européennes et puis des turbulences à venir dans la politique étrangère en 2025 avec Donald Trump en commandant de bord. Tout ça dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, à quatre jours du discours de politique générale, les socialistes continuent de pousser leurs pions sur la réforme des retraites. Alors que le gouvernement entretient le flou sur ce qu'il est prêt à accepter, le Parti Socialiste réclame un gel de la mesure d'âge pendant 6 mois. Caroline Morisseau.
Les socialistes ont lâché du lest. Après l'abrogation puis le gel total de la réforme, ils sont prêts à se contenter d'une suspension uniquement sur la mesure d'âge. Le recul progressif de l'âge de départ à la retraite serait donc mis sur pause pendant 6 mois, le temps de trouver d'autres solutions. Les personnes susceptibles de prendre leur retraite cette année pourraient partir des 62 ans et demi et non pas 62 ans et 9 mois. Une mesure beaucoup moins radicale qu'une abrogation pure et simple, mais qui a malgré tout un coût entre 2 et 3 milliards d'euros selon le PS. Pour l'absorber, les socialistes suggère de puiser dans le fonds de réserve des retraites, un matelas de sécurité doté de 20 milliards d'euros, dont le rendement sert aujourd'hui à résorber progressivement le déficit de la sécurité sociale. S'ils obtiennent gain de cause, les socialistes s'engagent à ne pas censurer le gouvernement. Pour certains économistes comme Philippe Aguillon, mieux vaut un compromis avec les socialistes qu'une censure avec toutes les conséquences qu'elle aurait sur nos coûts de financement. Pour d'autres, toucher à la réforme des retraites risque d'envoyer un signal catastrophique au marché.
Caroline Morisseau, l'actualité de ce vendredi nous emmène aussi au Royaume-Uni où le principal distributeur de gaz alerte sur le niveau inquiétant des réserves. Le pays est confronté à une vague de froid qui a poussé la consommation de façon inhabituelle. Combinée à la fin des livraisons de gaz russe, les stocks des sites britanniques ne sont plus qu'à moitié pleins. Mais le gouvernement assure que les capacités seront malgré tout suffisantes pour répondre aux demandes de cet hiver. Dans l'actualité des entreprises, la direction de Carrefour a annoncé ce matin au syndicat que 39 magasins et 4300 salariés allaient passer en location-gérance dès cette année. Stratégie contestée par les syndicats, la CFDT a déjà déposé une action en justice contre le distributeur en mars. Elle va déposer un référé dans les jours qui viennent. Pauline Tadevin.
L'annonce du passage d'une nouvelle vague de magasins en location-gérance n'est pas une surprise. Le rendez-vous était calé et la direction de Carrefour défend cette stratégie depuis 2018. Elle martèle que cela permet d'éviter la fermeture des points de vente et de sauver des emplois. Elle reproche à la CFDT de préférer la judiciarisation au dialogue social. Le syndicat, lui, chiffre à plus de 27 000 le nombre de salariés sortis des effectifs de Carrefour en 8 ans. Il assure ne pas être opposé au modèle économique de la location-gérance, mais il estime que le distributeurs l'utilisent pour contourner la législation sociale et ils contestent la nature des contrats de reprise. Tout comme, par ailleurs, l'association des franchisés Carrefour qui poursuit aussi l'enseigne pour des pratiques jugées abusives sur les contrats avec ses franchisés. Et l'affaire va encore plus loin puisque Bercy lui réclame depuis juin une amende de 200 millions d'euros pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, comme à l'époque, Carrefour conteste vigoureusement ce qui lui est reproché et se dit confiant dans sa capacité à démontrer la validité de ses contrats.
Dans l'actualité des entreprises, toujours et selon la presse italienne, Prada serait intéressée de racheter Versace à Capri Holdings. C'est la banque d'affaires Barclays qui a été mandatée pour contacter des acheteurs potentiels. Capri Holdings, dont les ventes ont chuté de plus de 16% au dernier trimestre, envisagerait également de céder sa marque de chaussures Jimmy Choo. Le fabricant de peinture et de revêtements AkzoNobel va lui supprimer plus de 200 postes en France, soit 16% des effectifs du pays dans le cadre d'un plan de réorganisation. Confronté au ralentissement économique, le groupe qui commercialise les peintures du luxe cherche à économiser jusqu'à 150 millions d'euros par an. Pour la deuxième année consécutive, Renault remporte le prix de la voiture de l'année pour sa R5 électrique, un prix décerné par une soixantaine de journalistes des principaux médias européens. De bon augure pour le modèle électrique qui est la clé de la stratégie de Renault. Justine Vassogne.
2025 sera-t-elle l'année de la R5? Tous les voyants sont au vert pour la petite citadine, emblème du renouveau de Renault dans l'électrique. Luca De Meo a déjà écrit sa légende. Il aime raconter comment, à son arrivée dans l'entreprise, il a déterré un projet mis au placard par ses prédécesseurs. 5 ans plus tard, la R5 est élue voiture de l'année, largement devant la Kia EV3 et la Citroën C3. La R5 doit briser le plafond de verre de l'électrification, explique Renault, en marge de sa victoire. Pour le moment, le pari semble réussi. Les premières ventes de la R5 sont prometteuses, avec 10 000 voitures écoulées en France depuis son lancement à l'automne. Le label voiture de l'année pourrait aider à confirmer cet élan, même s'il n'a guère profité au Scénic électrique lauréat l'année dernière. Pour transformer l'essai, il va aussi falloir réussir le lancement de la R5 à moins de 25 000 euros, attendu au printemps, avec un bonus écologique réduit. Pour le moment, elle n'est commercialisée que dans ses versions haut de gamme, entre 28 000 et 33 000 euros, un prix encore dissuasif pour beaucoup.
Et en parlant de remise de prix, ne manquez pas la 20e édition des BFM Awards, une édition exceptionnelle puisqu'elle aura lieu au Grand Palais. Cérémonie à suivre sur BFM Business lundi à partir de 18h30 pour le Before et jusqu'à 22h. Et puis c'est aujourd'hui que se clôture la grand messe de la tech aux États-Unis à Las Vegas, l'édition 2025 qui sans surprise était sous le signe de l'intelligence artificielle. Frédéric Simotel, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de BFM Business. Quel bilan est-ce que vous tirez de cet événement ?
Oui, paradoxalement, ce CES 2025 a connu son apogée avant son ouverture avec le discours de l'homme fort de la tech mondiale, Jensen Huang, le patron de Nvidia. Nouvelle puce graphique encore plus puissante, un modèle d'IA dédié à la vidéo, mais aussi et surtout un futur ordinateur aussi puissant qu'un data center, mais de la taille d'une boîte de chaussures. Voilà, vous voyez, le ton était donné dès le premier jour. Le CES est aussi impressionnant car d'année en année, on voit toutes ces technologies qui mûrissent et qui deviennent une réalité. La preuve avec les véhicules autonomes, Waymo, Zoox pour le transport de personnes, mais surtout les utilitaires, les tracteurs John Deere, les tracteurs Kioti, les machines de chantier Caterpillar. Ils ont des moteurs électriques, mais surtout ils sont autonomes, plus aucun opérateur à bord, et des millions de données qui remontent ensuite vers le cloud et qui sont traitées par des agents d'intelligence artificielle. Tout l'écosystème logiciel est en place, et parmi eux des Français, il y avait une grosse délégation de Français au cœur du salon de la mobilité. Ces agents IA, on les retrouve aussi dans les robots. C'est l'une des plus fortes délégations, des robots tondeuses, des robots aspirateurs, des robots de cuisine, des robots animaux de compagnie et surtout des robots humanoïdes. Ils intègrent de l'IA générative, ils intègrent des agents IA, ils deviennent autonomes une fois leur tâche définie. L'an dernier, on avait des prototypes, cette année ce sont des versions bêta et l'année prochaine ce sera sans doute le passage à l'échelle. Et puis un salon qui se veut aussi de plus en plus B2B. Même si beaucoup des innovations sont vouées à terminer dans nos salons avec les écrans TV d'Opelia par exemple, dans nos cuisines, dans nos voitures, la plupart des startups présentes ici visent le marché B2B. On trouve aussi quelques gros industriels et beaucoup d'EM. On a déjà hâte d'être à 2026.
Merci Frédéric et on vous retrouve lundi dans les studios de BFM Business. Bien sûr, tout de suite les marchés.
Votre rendez-vous avec La Française, un acteur majeur de la gestion d'actifs qui conjugue objectifs de performance et investissement responsable.
Et avec vous, Antoine Larigauderi, on vous retrouve sur le plateau de BFM Business. Antoine, alors on est dans le vert depuis le 1er janvier, plus 0,6%, mais c'est la baisse qui l'emporte aujourd'hui, un recul de quasiment 0,8% sur le CAC 40.
Oui, la séance a été difficile, mais le CAC limite la casse quand même, moins 0,79%. On est à 7431 points. Du côté des valeurs de croissance, l'Euronext Tech Leaders, par exemple, perd quasiment 1%. Et on a des baisses de 0,81% pour l'Eurostock 50, le DAX à Francfort, moins 0,5%. Partout, on est dans le rouge. À la baisse sur le CAC 40, les valeurs largement exportatrices, dépendantes d'éventuels conflits commerciaux à venir avec la Chine, avec les États-Unis. On a Pernod Ricard qui recule de quasiment 4% à 104,75. On a également Téléperformance qui recule de 2,4% à 83,18 €. Hors CAC 40, à noter Rémy Cointreau aussi qui est en baisse de 4,8% à 55,20 €. Nexans, forte baisse, moins 9,3% à 92,10 €. Et Mersenne, moins 5,14 € 19,92 €. Des bonnes nouvelles, on en a eu quand même, notamment dans le secteur industriel. C'est ArcelorMittal qui signe la plus forte hausse du CAC à plus 1,6%, 21,63 €. Et puis les valeurs pétrolières, encore une fois très entourées. Vivinien qui signe la plus forte hausse du SBF 120 à plus 9%, 58,90 €. Faut pas oublier qu'il y a encore quelques minutes, le Brent de Mer du Nord était largement au-delà des 80 $. De retour au plus haut depuis cet été, on est à 79,19 € en ce moment, mais très nette poussée haussière du pétrole en ce moment. Moins 0,60 79% 0,79% pour le CAC 40 qui termine donc la semaine en baisse. 7431 points, les volumes d'échange corrects à 3 milliards d'euros.
Bon, du côté des États-Unis, c'est du rouge vif. Hein.
Ça va pas du tout.
Non.
Moins 2,15% pour le Nasdaq, hein, qui est vraiment sur le fil des 19 000 points. On est à 19 058. On a un Dow Jones en repli d'1,7% et moins 1,8% pour le S&P 500. La volatilité remonte quasiment à 20 points. On est à 19,92 sur l'indice VIX. Et puis surtout, les tensions qui perdurent sur le 10 ans américain, sur la dette à 10 ans. On est quasiment à 4,8%. On est à 4,76. Forte tension sur le rendement obligataire après un rapport américain sur l'emploi qui était largement supérieur aux attentes et qui fait dire que l'économie américaine va trop bien pour que la Fed soit obligée d'abaisser ses taux, peut-être même cette année. Là, les consensus sont passés de « bon, il n'y aura rien avant juillet » à « là, a priori, il n'y aura rien avant octobre » et peut-être même rien du tout. Donc, ça sème un peu le trouble et on peut prévoir peut-être une semaine qui va se terminer de manière encore plus difficile du côté de Wall Street tout à l'heure.
Et on verra ça à la clôture à 22h. Merci Antoine. Dans un instant, nos experts sans frontières, Anna Navarro, Adeline Percep, Benahouda Abdedaïm, au programme « L'instabilité politique de la France, comment est-elle perçue ?» depuis l'étranger. On reviendra aussi sur l'ingérence de Musk en Europe et puis les turbulences à venir sur les dossiers de politique étrangère avec Donald Trump au poste de commandant de bord là-dessus. À tout de suite.
BFM Business présente Les Experts sans frontières.
Et nos experts internationaux qui viennent de nous rejoindre en plateau ce soir, c'est vendredi, sur BFM Business. Bonsoir Anna Navarro Pedro.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, journaliste portugaise basée à Paris. Face à vous, Adeline Percep, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de la RTBF à Paris. Je précise que vous n'êtes pas belge. Ça, hein.
C'est vrai.
Ouais,
vous avez raison.
On peut travailler à la RTBF sans être.
Vous avez raison, mais je le deviens.
Ah,
au bout du temps.
Quand on occupe ce poste-là, j'imagine bien. Benahouda Abdedaïm est aussi avec nous. Bonsoir Benahouda.
Bonsoir.
Éditorialiste international BFM Business avec votre newsletter hebdomadaire. Benahouda, je la rappelle, très intéressant. Tous les jeudis, l'envers du globe. Vous décortiquez l'actualité internationale, vos analyses d'événements passées sous les radars. On verra aussi avec vous quels sont les sujets chauds du moment. On y reviendra, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission d'ailleurs. Trois sujets, trois thèmes avec vous ce soir. Les ingérences d'Elon Musk dans la politique européenne, la réaction de l'Union européenne, ou non-réaction d'ailleurs, hein, on se fait attendre. Ursula von der Leyen, on l'a pas trop entendu pour l'instant. La géopolitique, ce qui se dessine cette année avec Donald Trump, qui a déjà bien donné le ton, hein, un bon aperçu de ce à quoi va ressembler 2025. Mais d'abord, le regard de l'étranger sur la situation économique de la France. Un Paris qui cherche difficilement des moyens d'assainir ses finances publiques. Il manque encore 10 milliards d'euros pour boucler le budget 2025. Le gouvernement qui, dans ce contexte, doit trouver le bon compromis pour éviter une nouvelle censure. Le rendez-vous politique sans conteste la semaine prochaine, ce sera mardi, avec le discours de politique générale de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Ça sera d'ailleurs à suivre sur BFM Business dans le cadre de notre grande soirée spéciale. Ça commencera à 15h jusqu'à 20h. En attendant, François Bayrou consulte notamment à gauche sur deux dossiers essentiels. Les retraites d'abord, c'est ce qui va nous intéresser avec vous ce soir. Équilibre difficile à trouver, pas de consensus. Emmanuel Macron se serait bien passé d'ailleurs de la réouverture de ce dossier épineux pour commencer 2025. Comment on regarde ça de l'étranger? Peut-être je commence avec vous, Anna Navarro Pedro.
Écoutez, ce rebondissement du feuilleton français des formations de gouvernement et des majorités introuvables au Parlement, ce rebondissement des retraites a tout l'air d'être une manœuvre de distraction concernant le principal problème qui est le budget, l'approbation du budget. Tout le monde est en train de se gratter la tête et se dire c'est une loi qui a été passée, c'est une loi qui a été donc publiée au journal officiel. Revenir dessus, c'est compliqué si on n'a pas une autre loi qui revient dessus. La mettre sur l'étagère, c'est compliqué aussi. Donc on nous dit peut-être que on peut étaler
ouais.
Le temps de d'application des 64 ans, etc. Mais en réalité, ça semble être une manœuvre d'un côté de distraction par rapport au problème principal et peut-être une monnaie d'échange avec les partis qui sont vent debout contre notamment ceux de gauche qui sont Rassemblement National qui sont vent debout contre cette loi. Mais à la fin des fins, est-ce que c'est pas un marché de dupes? Parce que même ces partis qui peuvent vouloir quelques concessions là-dessus, quelles concessions vont-ils avoir, en fait?
Mais au Portugal, alors, comment ça a été négocié?
Sur les réformes des retraites.
Ouais, sur les retraites.
Ça a pris très longtemps, beaucoup d'années. Ça a été amené sur le débat public et porté par des gouvernements successifs. Ça a été étudié en fonction, excusez-moi, mais du taux de mortalité et de natalité du pays. C'est comme ça qu'on étudie quand même les questions des retraites.
Oui, ça sera, c'est ce qui se fait aussi en Italie. On retrouvera tout à l'heure notre correspondant
de Rome qui nous raconte. Et donc, ça a finalement été adopté après moult débats sur la place publique et au Parlement et chez les experts. Non pas sans certains parfois, des discussions un peu plus chaudes, mais en règle générale assez techniques. Bah, c'est basé maintenant, l'âge de la retraite est basé maintenant sur le taux de mortalité, sur l'espérance de vie.
Et donc, ce qui amène à quel âge?
Là, en ce moment, j'ai regardé avant de venir parce que ça varie à partir du moment. Là, en ce moment, ça a baissé un peu. C'est à 66 ans et 4 mois parce qu'on a un excès de mortalité au Portugal depuis 4 ans.
Donc,
et donc, les gens décèdent plus tôt qu'avant.
C'est-à-dire que l'âge légal de départ à la retraite peut varier d'une année sur l'autre?
Elle peut varier en fonction de la table de mortalité.
D'accord. Et il était de combien précédemment?
Il y a un an, deux ans, je pense qu'il était pas loin des 67 ans. 66 ans et 8 mois, quelque chose comme ça.
Adeline Percep, comment on regarde ça depuis Bruxelles aussi? Mais,
écoutez, on n'a toujours pas de gouvernement en Belgique.
Donc, et c'est matière à rassurer peut-être sur la situation politique et économique.
Non, mais
de
ce que je veux dire par là, c'est que la Belgique est habituée à ces périodes de compromis, de tentatives de compromis, de débats, de discussions. La grande différence que je vois par rapport à la situation française, c'est que ici en France, il n'y a eu que deux semaines pour faire campagne, et que en réalité, si vous êtes capable de me donner vous le plan très précis que chaque parti qui s'est présenté avait pour la France, allez-y, parce que très sincèrement, on a l'impression qu'on se barre un peu sur des petites mesures comme ça, voilà. Donc ça suscite quand même un peu d'incompréhension sur les retraites en particulier. Il semble y avoir une non-acceptation de la part d'une grande partie des Français. Et ça, on l'a beaucoup suivi en Belgique. Alors la Belgique, on est à 65 ans pour l'instant, et puis petit à petit, on va arriver à 67. Ans. Bon, voilà, la Belgique s'y est mise avec une retraite qui ressemble à celle qui est ici en France, c'est-à-dire une retraite par répartition. Mais ici, on voit bien que ça a posé un énorme problème. Malgré tout, Macron est passé en force là-dessus. Et on se retrouve, et on se retrouve avec ce problème qui est toujours sur la table. Le problème de fond, c'est peut-être un problème de gouvernance au fond.
Bon, il y a ces problèmes-là, malgré tout, c'est loin d'être un sujet franco-français, même s'il y a une spécificité nationale. Mais on peut regarder, justement, je parlais de l'Italie, ce qui se passe du côté de chez notre voisin, avec une équation financière compliquée du fait du vieillissement de la population. C'est un peu ce que vous nous disiez sur le Portugal. On va retrouver Natalia Mendoza, notre correspondante à Rome. Natalia, en Italie, par exemple, le montant des pensions versées baisse automatiquement à mesure que l'espérance de vie, elle, augmente.
C'est sans doute un coup dur pour les travailleurs italiens qui atteignent leur fin de carrière cette année. En 2025, les pensions en Italie vont baisser. Concrètement, pour un même montant contributif accumulé, les travailleurs qui partent à la retraite en 2025 percevront une pension plus basse de 2% par rapport à celle des retraités de l'année dernière. C'est l'effet de ce qu'on appelle en Italie les coefficients de transformation, c'est-à-dire le multiple qui transforme le montant total des cotisations en chèque de pension selon le système italien par répartition. Ces coefficients sont calculés tous les deux ans en fonction de l'espérance de vie. Plus l'espérance de vie est élevée, plus la durée de versement des pensions sera longue et plus les coefficients seront faibles, cela pour préserver les caisses de l'État. Il faut savoir que la baisse de cette année intervient après deux ans d'augmentation des coefficients liés aux effets de la pandémie. Les milliers de morts du Covid ont modifié les données de l'espérance de vie dans le pays et les nouveaux coefficients calculés cette année s'alignent donc sur l'évolution démographique négative en Italie. le pays le plus âgé de l'Union européenne.
Anna Navarro, Pedro, on vient d'entendre notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza, qui nous parle d'une situation qui est un petit peu prise de la même manière que du côté du Portugal. Portugal qui a aussi vécu une cure d'austérité il y a quelques années. Il a fallu faire des sacrifices. Finalement, ça a payé. Enfin, quel bilan on en fait et comment en France on peut regarder aussi ce qui a été fait chez nos voisins?
On peut regarder et on doit regarder pour plusieurs raisons, pour le positif et pour le négatif. Le Portugal avait quand même des fondamentaux qui étaient plus solides que d'autres pays du sud de l'Europe. Et donc une réforme comme celle des retraites avait été faite, beaucoup de réformes d'État avaient été faites, notamment de l'administration publique, de la fonction publique, etc.
Donc il y avait cet acquis-là déjà.
Il y avait tous ces acquis, et donc ce qui nous a été imposé est allé beaucoup plus loin, à un tel point que le pays asphyxiait. Littéralement, on a eu une vague d'immigration immense, on a eu une perte de tous les cerveaux, tous les jeunes qui étaient formés chez nous et qui sont tous partis travailler ailleurs, et le pays était en train de mourir littéralement. Quand finalement il y a des élections, il y a une majorité qui se forme, un peu comme en France à ce moment-là, les blocs de gauche qui sont pas majoritaires, les gauches qui sont pas majoritaires mais unis pour une alliance parlementaire, réussissent à former un gouvernement sur une plateforme commune négociée qui sera respecté par le gouvernement d'António Costa, qui est maintenant le président du Conseil européen à Bruxelles. Eh bien, et là, il a desserré l'étau tout en préservant une partie de la politique de rigueur. Ouais. Et là, ça a donné une telle asphyxie, une telle oxygène au pays que l'espoir, une conjoncture économique internationale favorable aussi, et l'énergie que ça a libérée ont été fondamentales.
Il faut trouver le bon levier, il faut trouver le bon dosage pour que ça fonctionne. Aline Percep, je rappelle, vous êtes correspondante de la RTBF à Paris. L'autre levier, justement, à côté des retraites, c'est celui de la fiscalité du patrimoine, notamment les taxations sur les successions. Il y a cette tribune, cette semaine, qui a été assez remarquée dans Les Échos. 115 entrepreneurs qui demandent à être davantage taxés sur leur succession pour aider le budget de la France. Est-ce que c'est quelque chose, une actualité qui fait écho à ce qui a pu se passer ailleurs en Europe?
Alors écoutez, en tout cas en Belgique, l'impôt sur les successions est très impopulaire. Il est très très impopulaire et il est même souvent question, il est régionalisé. C'est un peu la complexité du pays, mais il est souvent mis sur la table de le supprimer tout simplement, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe. Vous savez qu'il y a 7 pays d'Europe dont la Norvège, la Suède et les pays baltes qui ont décidé juste de supprimer cet impôt-là. Ici en France, moi je perçois cela un petit peu comme du maquillage ou du... Je ne vois pas très bien ce qu'on gagne avec une telle réforme, d'autant qu'on sait très bien que les gens qui sont riches savent parfaitement comment faire pour évader, pour s'évader au moment où le fisc doit arriver. Et d'ailleurs, la Belgique et la France sont les deux seuls pays d'Europe où l'impôt sur la succession représente plus d'1% du PIB. C'est les deux seuls pays. Donc ça veut dire qu'on contribue déjà pas mal, en fait, les Belges et les Français. Donc, je perçois ça un petit peu comme une façon de peut-être aller sur ce que j'appelle des mesures un peu annexes. Et on ne voit pas très bien dans tout ça quelle va être la direction budgétaire. Je pense que c'est ça qu'attendent les Français, en fait. La direction du budget. Ouais. C'est quoi? C'est un budget de droite, de gauche?
Pour l'instant, on lance des pistes un petit peu dans tous les sens. On verra ce qui...
Dans tous les sens, vous l'avez dit.
Ce qui retombe. Anna Navarro Pedro, sur ce levier-là de la fiscalité du patrimoine et notamment sur les successions, un commentaire?
Oui, alors, il me semble que c'est... Puisque le gouvernement, le Premier ministre François Bayrou essaye de trouver des appuis pour la survie de son gouvernement et de son budget du côté de la gauche, évidemment que c'est une possibilité, une mesure qui peut déjà plaire, qui peut mettre un petit baume au cœur, je ne sais pas. L'impôt n'est pas très... En Portugal, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Si c'est en ascendant ou descendant. Il y en a pas. Il y en a un tout petit peu pour latéral, si on veut. C'est un impôt qui peut être très injuste. En France, il peut sembler être très juste en disant oui, mais on doit tous partir, égalité, fraternité, etc. On peut tous partir d'un même pied, etc. C'est pas vrai. Parce que comme disait Adeline, évidemment, si vous avez quand même une fortune considérable, vous avez les moyens d'avoir les conseils fiscalistes nécessaires pour la mettre à l'abri, pour la transmettre à votre descendance ou à qui vous voulez. Donc, ce sont les gens qui vont se trouver au-dessus des 150 000 euros plafond en dessous desquels on ne paye rien. Ce sont les gens qui vont se trouver là-dessus, qui ont peut-être veulent léguer un appartement, qui ont pris 20 ans à payer à leurs enfants et selon l'endroit où il est localisé, pas avoir pris une valeur immense. On pense à Paris, on pense à d'autres endroits en France, et puis qu'ensuite vont laisser les enfants dans une situation difficile, quitte à vendre l'appartement ou le logement pour pouvoir payer les impôts. Ouais. On est dans des situations désagréables qui déplaisent profondément aux Français. Les Français aiment beaucoup l'égalité, mais pas trop hein, quand même. Il y a des moments où l'égalité devient un boulet.
Avec modération. Anna Navarro-Pedro, vous le disiez justement, hein, il faut trouver des pistes pour que le gouvernement tienne, pour qu'il n'y ait pas de censure, comme ça a été le cas il y a quelques semaines. Ben Aouda Abdennaïm, faute d'accord et en cas de censure, il faudra à nouveau reformer un gouvernement. On le disait il y a un instant avec Aline Percep, la Belgique a passé quoi, quasiment un an et demi sans gouvernement.
Oui, 500 jours. Oui.
Bon, ils s'en sont sortis.
Ouais, mais c'est pas du tout le même système politique. Ouais. C'est pas du tout le même système politique. Et là, pour le coup, si vous voulez, les partis qui sont en train de discuter pour la coalition, on sait où ils vont. C'est centre droit libéral qui a gagné à la fois en Flandre et en Wallonie. Et c'est assez inespéré parce que les planètes politiques, pour une fois, sont alignées, ce qui n'était pas le cas dans les précédentes élections. Donc, on sait où ils vont, peu ou prou, c'est des discussions un peu à la marge, mais si vous voulez, les choses sont assez claires. Là, ça coince un peu sur des histoires de fiscalité, par exemple, mais c'est à la marge. Ce sont des gens de centre-droit, qui sont libéraux, ouais. On sait quel type de mesures ils veulent pour la Belgique, ouais. Voyez,
vous voulez dire qu'on ne peut pas transposer cet exemple à la France complètement?
Non,
quoi.
Parce que c'est un pays qui aussi est un immense compromis. C'est un immense compromis depuis le début.
Depuis
toujours. Et donc, du coup, c'est pas du tout transposable à ce qui se passe ici. Pas du tout. On n'est pas en crise politique, ouais, en Belgique.
Ce qui fait que c'est très déstabilisant aussi pour les Français de constater cette situation politique qui est très inhabituelle chez nous, et comme vous le disiez, moins inhabituelle en Belgique, moins inhabituelle en Italie,
oui,
moins inhabituelle en Grande-Bretagne.
Et au niveau business, par exemple, en Belgique, si vous voulez, les PME et les grandes entreprises savent à quoi s'en tenir. Elles savent que le budget va être reconduit jusqu'à ce qu'on vote un nouveau budget, puis c'est dans les mœurs. Ici, moi, quand je vais en France, quand je vais en reportage, notamment, récemment, j'étais dans le Jura, je suis allée voir une grosse PME, voilà, ça marche très bien pour eux, mais ils sont déjà en train de prévoir leurs commandes pour décembre 2025.
Ouais, c'est ça.
Et là, si vous voulez, quel est le problème ? C'est ils sont obligés de faire des économies par mesure de précaution, ouais, quelque part. Et c'est ça qui se passe partout en France. Et ça se passe pas en Belgique de la même façon, parce que on est habitué et parce que on sait que ça roule.
On marque une pause. On se retrouve dans moins de 2 minutes avec la suite de nos sujets. Elon Musk qui tente d'influencer la politique de l'Union européenne et Donald Trump qui nous a déjà donné un petit aperçu des dossiers économiques et géopolitiques qui vont nous occuper cette année. A tout de suite.
BFM Business présente Les Experts sans frontières.
Et nous sommes toujours avec nos experts internationaux. Ce soir, Anna Navarro, journaliste portugaise basée à Paris, Aline Percept, correspondante de la RTBF à Paris, Ben Aouda Abdennaïm, éditorialiste BFM Business. Et on en vient donc à Elon Musk, la personnalité qui préoccupe, qui inquiète même les chefs d'État européens en ce début d'année, le futur responsable de l'efficacité gouvernementale des États-Unis qui s'en est pris violemment au gouvernement de Keir Starmer au Royaume-Uni et a multiplié les déclarations de soutien à l'extrême droite allemande. Il y a quelques semaines, des législatives qui sont prévues là-bas le 23 février. Seule l'AFD peut sauver l'Allemagne, dit Elon Musk. Stupéfaction de certains chefs d'État. Écoutez Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste espagnol, qui reprenait les mots d'Emmanuel Macron à ce sujet.
Et l'international réactionnaire, comme l'a dit le président Macron il y a quelques jours, ou l'international d'ultra-droite que nous dénonçons ici en Espagne depuis plusieurs années, dirigé en l'occurrence par l'homme le plus riche de la planète, attaque ouvertement nos institutions, attise la haine et appelle ouvertement à soutenir les héritiers du nazisme en Allemagne lors des prochaines élections dans la première puissance économique européenne.
Adeline Perceb, vous travaillez en Allemagne par le passé. Comment vous regardez là, ce qui se passe ?
Bien, écoutez, moi, j'ai suivi à l'époque, vraiment en 2015, j'étais en Allemagne au moment de la crise migratoire. Et donc, c'est le moment où on a vu émerger tous les lundis soirs à Dresde, donc dans l'ancienne RDA, en Allemagne de l'Est, ce qu'on a appelé les manifestations du lundi. C'était tristement appelé comme ça, parce que ça faisait référence au moment où les gens dans l'ex-Allemagne de l'Est manifestaient pour leur liberté. Donc, le symbole retourné était extrêmement fort. C'est là que vraiment cette extrême droite de l'AFD est née, dans ces rues-là. Je peux vous dire que ça fait partie des reportages que j'ai faits qui m'ont fait le plus peur. Je me suis retrouvée dans des endroits où on détestait la presse en soi, où on me hurlait dessus parce que j'avais une caméra et on me disait « Lüge Presse », qui veut dire en gros « la presse ment, la presse menteuse ». C'est des gens qui sont absolument pas comme le RN Ripollinet aujourd'hui. Absolument pas. Ouais. Et quand on suit la discussion qui a eu lieu entre Elon Musk et Alice Weidel, qui est la patronne de l'AFD maintenant, on hallucine, je veux dire. Et elle lui a quand même dit... On n'est pas des nazis parce que dans national-socialisme, il y a socialisme et on n'est pas des socialistes, si vous voulez. On en est là. Donc moi, ça me choque énormément déjà de voir ce personnage, Elon Musk, qui réhabilite, au fond, enfin, c'est pas qu'il réhabilite, c'est même qu'il valide des gens qui ne sont absolument pas recommandables. Et ensuite, ce qui me choque, c'est que lui, il a le pouvoir de modifier les algorithmes. De X pour faire monter les sujets qui vont à lui convenir.
Ouais.
Donc ce qui me scandalise le plus, je crois, c'est qu'il a le pouvoir, au fond, de valider des fausses infos. Voilà.
Bah justement, on va écouter tout de suite Jean-Noël Barrot à ce sujet, ministre des Affaires étrangères, qui recevait mercredi Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Il en a profité pour appeler la Commission européenne à réagir avec plus de fermeté face aux multiples ingérences d'Elon Musk, et donc notamment sur les réseaux sociaux. Écoutez.
Les plateformes de réseaux sociaux doivent mettre tout en œuvre pour éviter que leurs plateformes viennent perturber le débat public, sous peine de lourdes amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, et dans les cas les plus graves, qui peuvent aller jusqu'au bannissement de l'Union européenne. Il appartient désormais à la Commission européenne de faire appliquer ces nouvelles lois européennes que nous nous sommes données, et je l'appelle instamment à le faire, avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de clarté. Si elle ne le faisait pas, alors il conviendrait qu'elle puisse restituer aux États membres, qui le souhaitent, la possibilité de le faire à leur niveau.
Jean-Noël Barrot, au sujet des excès d'Elon Musk sur les réseaux sociaux, de la modération dont l'Union européenne a la charge aujourd'hui. Est-ce que c'est le même discours politique qu'on entend en Belgique, au Portugal? On appelle à rapatrier ce droit-là, la modération, au niveau national, parce que l'Union européenne ne fait pas son travail?
Pour l'instant, les Belges ne sont pas allés jusque-là, mais Alexander De Croo a clairement dit il faut réagir. Donc c'est lui qui est toujours Premier ministre, faute de nouveau Premier ministre. Et il a dit il faut que la Commission réagisse, et très fermement.
Anna Navarro Pedro.
Au Portugal non plus, il n'y a pas une réaction très très forte. Je suppose qu'il y a une réflexion, parce que quand même... Parfois, sur ce chemin-là, on peut tomber dans l'extrême opposé, c'est-à-dire aller jusqu'à la censure aussi. Il y a un problème. Musk est non simple. Enfin, tous les milliardaires qui se mettent en tête de finalement s'amuser à changer les gouvernements, les pays, ou façonner le monde ou la politique selon leur goût, c'est toujours extrêmement dangereux. Il faudrait peut-être avoir un débat là-dessus, quels que soient les pays. Elon Musk, en plus, il est d'une mauvaise éducation sans fin, tout comme Trump. Ils sont tous les deux mal élevés, comme ils le montrent, et le montrent dans leurs tweets, dans leurs interventions récentes. Et cela n'est pas seulement une question de bonne manière, c'est une question aussi de diplomatie, c'est une question aussi de relations bilatérales ou de relations multilatérales qui posent un problème énorme. Quant à l'ingérence directe dans la politique de l'Angleterre, du Royaume-Uni avec Starmer, puisque Elon Musk l'attaque aussi, en Allemagne, c'est vrai, et c'est un problème, et il a les moyens d'ingérer, mais il n'est pas le seul. L'Union européenne, elle a des toits de verre dans cette affaire. Quand la politique, quand les choix politiques ne lui plaisent pas dans d'autres pays, elle ne se prive pas d'intervenir. Regardons le cas de la Géorgie récemment, regardons le cas de la Moldavie, juste pour citer quelques exemples récents. On peut dire qu'elle le fait pour la bonne cause, quoi que ce soit, mais quelle est la bonne cause à ce moment-là? Quel précepte moral va-t-on choisir? Quel contexte moral va-t-on choisir dans ce domaine? Donc, il y a énormément de problèmes, et puis on nous dit, je peux finir, l'Union européenne n'a pas dit grand-chose, Madame von der Leyen, qui est tellement forte avec les faibles, là, avec les forts, on ne l'entend pas.
Ben Aouda Nedaïm, justement, à ce sujet, il y a une espèce de silence assourdissant quand même de la voix de l'Union européenne, la Commission européenne, face à cette nouvelle administration, enfin face à Elon Musk, mais derrière, face à la nouvelle administration américaine qui arrive, qui entre en fonction quand même dans 10 jours.
Oui, alors il faut préciser que Madame von der Leyen a été hospitalisée pour une pneumonie, semble-t-il, assez grave, mais elle n'a pas délégué ses pouvoirs à quiconque au sein de la Commission européenne. Et on voit jour après jour le porte-parole de la Commission européenne lors de traditionnels points de presse de la mi-journée être assailli de questions à ce sujet, cette transition qui arrive comme un rouleau compresseur, et ce pauvre porte-parole étant obligé de sortir quelques banalités d'usage.
Meublé,
jusqu'à ce que, par exemple, un confrère de Euractiv, Nicolas Wallace, l'autre jour, a dit vous attendez quoi au juste que les Marines foulent le sol du Groenland pour réagir. C'est aussi une manière de s'en prendre à la Commission européenne plutôt que de s'en prendre aux États membres, ce qui est classique en l'occurrence. Et lorsque vous voyez peut-être les positions du ministre français des Affaires étrangères ou du Premier ministre belge, le chancelier allemand dit qu'il ne faut pas alimenter les trolls, en clair, laissons-le parler. La première ministre italienne qui est à tuer à toi, si je puis dire, avec Elon Musk. Donc, là aussi, l'Union européenne est tout à fait fracturée à ce sujet. Et lorsqu'on prend le cas danois, qui est très parlant, en clair, un État extérieur, les États-Unis, menacent d'annexer par la force militaire un État membre de l'Union. Enfin,
on va y revenir. Un allié de l'OTAN.
Voilà, et puis je ne vais pas faire toute la... Et là, vous voyez certains dire non, mais ils ne pensent pas ce qu'il dit, par exemple.
Oui, c'est ce qu'a dit Mélanie.
Oui, ouais, mais pas seulement si vous prenez les États baltes qui sont si prompts à mettre en cause le sens politique la position politique des Russes. Ils disent non, mais ils ne parlent pas sérieusement. Donc effectivement, c'est à géométrie variable, selon que la cause défendue par l'Union européenne lui paraît la bonne. Et lorsqu'il s'agit d'un allié, entre guillemets, comme les États-Unis, là, on essaye de trouver toutes les raisons valables de penser que tout cela n'est que finalement que plaisanterie.
Mais de la même manière que Pékin, à travers ses routes de la soie sur un tout autre dossier, a mis en avant la désunion des pays de l'Union européenne en négociant au cas par cas avec la Grèce pour le port du Pirée, avec d'autres pays, en montrant qu'il n'y avait pas finalement de réponse européenne derrière. C'est un petit peu ce qui se passe avec les États-Unis. On ne dévoile pas tout parce qu'on va y revenir dans quelques minutes, mais d'abord pour revenir sur Elon Musk, est-ce que c'est aujourd'hui le cheval de Troie de Donald Trump sur le territoire européen ?
Non, manifestement, il agit pour son propre compte. Et d'ailleurs, Donald Trump lui-même en est parfaitement conscient. Il l'a dit à des élus républicains. J'aime beaucoup Elon jusqu'au moment où je ne l'aimerai plus. Donc, avant même d'être président en exercice, il le dit clairement. Ça durera le temps que ça durera, mais chacun retrouvera ses intérêts propres. L'objectif pour Elon Musk, c'est d'asseoir l'idée qu'il est en mesure de révolutionner le fonctionnement de l'État fédéral américain en sabrant à la hache dans la dépense publique fédérale, 1 000, 2 000 milliards de dollars. Mais pour ainsi dire, il ne peut pas, étant donné la puissance cas Elon Musk, encore une fois, puissance industrielle, puissance médiatique, le considérer comme un simple troll, comme en parle le chancelier Scholz. C'est un troll d'une extrême puissance, entre guillemets.
Mais est-ce que on en vient à dire, Ben Aouda, que Trump va peut-être venir à s'agacer du comportement d'Elon Musk?
Pas sur le fond. Il pense effectivement la même chose concernant le Royaume-Uni, concernant les progressistes français, belges, allemands, peu importe. Mais ce qui va très certainement l'agacer, et encore une fois, ce sont des élus républicains qui le disent, c'est qu'il ait l'impression qu'il tire la couverture à lui. Et que ce soit lui qui soit cité par le chancelier allemand, par le ministre français des Affaires étrangères, etc. Donc, pour lui, à un moment donné, il faudra rappeler qui a été élu et que Elon Musk fasse, pour ainsi dire, la même chose qu'a fait Mark Zuckerberg, c'est-à-dire plier le genou et présenter ses respects en tant que tel et pas discuter d'égal à égal avec le président des États-Unis.
Anna Navarro-Pedro.
De toute façon, dans une meute, il ne peut pas y avoir de chien alpha. Et Trump a les moyens de faire plier Musk.
C'est celui qui a été élu d'ailleurs.
Moi j'aurais dit dans un marigot peut pas y avoir deux crocodiles. Ouais, on est très
vous êtes sur la
animalière.
Très aligné là-dessus. Bon, on en vient à Donald Trump justement, qui sera de retour à la Maison Blanche. Hein. On disait dans 10 jours, le président américain qui provoque déjà la sidération. On le dévoilait il y a un instant, disant vouloir conquérir le Groenland, territoire sous souveraineté danoise et allié de l'OTAN. Écoutez Donald Trump.
Sur le Groenland, les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer car nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. C'est pour le monde libre.
Anna Navarro-Pedro, vous êtes bouché les oreilles.
Oui, parce que comment on peut dire une bêtise pareille peu importe, vous savez, c'est un homme d'affaires, donc on est en plein dans les acquisitions et les fusions. Mergers and acquisitions.
Appliqué à la géopolitique, quoi.
Ah, Groenland, Panama, Canal du Panama, Canada, quoi d'autre? Il y en a un autre, je ne me souviens même plus, Mexique qu'on l'envahit, etc. Bon, on est en plein là-dedans. Mais le problème, c'est que concernant, déjà, il est en train d'attaquer un membre de l'OTAN. Alors, comment fait-on avec l'article 5 de l'OTAN qui dit, s'il y en a un qui est attaqué, tous les autres, un pour tous, tous pour un, tous les autres doivent défendre...
Ça, c'est quand même une première. Hein.
C'est une
inédit.
C'est une première. Le pauvre Danemark, c'est un pays bien géré, c'est un pays avec des principes humanistes et de morale publique importants.
C'est le plus atlantiste de l'Union européenne.
C'est le plus atlantiste de l'Union européenne, qui d'ailleurs a donné tous ses avions de combat à l'Ukraine. Ben, maintenant, il n'en reste plus aucun pour se battre contre les États-Unis, même fictivement. Et donc, c'est un vrai débat au Danemark. J'ai l'impression qu'ils se sentent très seuls,
ouais.
Parce qu'on ne voit pas tellement l'Union européenne, on va en parler tout à l'heure, on ne voit pas tellement les autres capitales européennes, on ne voit pas des politiciens aux États-Unis leur dire « mais non, on est avec vous et on va vous soutenir », on ne voit pas des grands noms d'avocats internationaux dire qu'on va les soutenir. Ils se trouvent bien seuls. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à un fauve pareil?
Mais ça nous ramène à ce que vous disiez il y a un instant, Ben Aouda Abdedaïm, à savoir qu'on ne croit pas forcément ce que raconte Donald Trump sur ce sujet. Il y a la question de la crédibilité entre ce qu'il dit, ce qu'il fait. Pareil pour Elon Musk, hein, entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, il y a quand même un gouffre. Malgré tout, c'est sur des sujets ultra sensibles.
Oui, le ministre danois des Affaires étrangères, qui a une très grande expérience politique et diplomatique, a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas prendre au sérieux ses déclarations, garder son calme. La première ministre appelle au dialogue, elle veut rencontrer Donald Trump avec l'idée que, somme toute, tout cela rentrera très vite dans l'ordre et qu'il n'y aura aucun souci majeur à ce sujet. Sauf que le Premier ministre du Groenland, cet après-midi, a clairement dit qu'il réclamait l'indépendance, sans pour autant basculer dans le camp américain. Donc, en clair, il aura suffi de quelques déclarations du président des États-Unis pour que le Royaume du Danemark se désagrège sur lui-même. Les îles Féroé, autres dépendances territoriales du Groenland, font savoir qu'il va falloir aussi songer à changer la relation entre Copenhague et les îles Féroé. Donc, en parfaitement clair. Vous êtes en train de porter atteinte à l'unité nationale d'un État souverain de l'Union européenne. Et effectivement, ça ne soulève pas de très grandes inquiétudes. Mais pourquoi ça soulèverait des inquiétudes chez les Belges, les Portugais ou les Italiens lorsque vous voyez que la première ministre du Danemark, au lieu de riposter et d'en faire une affaire d'État, et c'est-à-dire de réclamer que le futur président des États-Unis cesse, elle propose un dialogue. Donc c'est quelque chose qui montre que...
C'est pas inefficace, hein. Il y a quand même des répercussions derrière, il se passe des choses. C'est peut-être ce que cherche à provoquer Donald Trump.
Tout à fait,
Trump.
Ouais. Et aussi il y a l'idée que l'arme des droits de douane, la Commission européenne est appelée à dire que si vous touchez à un cheveu du point de vue des droits de douane au Danemark, en fait, vous appliquez les droits de douane aux 27. Mmh. Et donc, l'Union européenne réagira en tant que bloc commercial face aux menaces contre un État. Donc, de ce point de vue-là, on sent une sorte de vide de la réponse qui est utilisée par le futur président des États-Unis.
Anna Navarro-Pedro et puis Adeline Percept.
Cette stratégie de dire en Europe qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux, ce n'est pas vrai, il ne va pas le faire, c'est ce qu'on avait dit pour Poutine, souvenez-vous, jusqu'au 22 février 2022.
Justement, je voulais vous demander si ça fait le jeu de Vladimir Poutine.
Je pense qu'il s'en tape complètement, pour tout vous dire. Hein. Il est dans son truc, il va aller peut-être s'il peut jusqu'à Odessa, parce qu'il n'y a plus aucune... L'Ukraine est en train de perdre la guerre, malgré tout ce qu'on nous dit, qu'en chaque fois, on nous a dit pendant 2 ans qu'ils étaient en train de gagner. C'est pas vrai, ils sont en train de la perdre. Et d'une façon, je plains vraiment, mais de tout cœur, tous ces hommes, tous ces jeunes qui sont en train de perdre la vie pour rien, là-bas. Des deux côtés, d'ailleurs, aussi les Russes, pas que les Ukrainiens. On a dit, on n'a pas cru et ça s'est passé. Deuxièmement, l'Europe se trouve dans une drôle de situation parce que pour interdire le changement des frontières par la force des armes, comme l'a fait Poutine pour l'Ukraine, on est quasiment entré en guerre via l'OTAN avec la Russie. On a donné des moyens, des armes, on a donné de l'argent, on a donné de l'assistance à l'Ukraine. On s'est coupé du gaz et de l'énergie russe qui était bon marché. On l'achète maintenant 3 fois plus cher aux États-Unis.
On voit encore en Grande-Bretagne, petite parenthèse, mais là, depuis le 1er janvier, les stocks de gaz sont au plus bas. Hein. C'est ce que
au
dit
plus
le
bas.
Premier fournisseur.
Nos industries sont en train de s'effondrer, notamment en Allemagne. Donc l'Europe est en train de s'effondrer complètement à suite de ça. Juste BlackRock considère que la fragmentation de l'Europe cette année est l'un des 10 grands dangers qui menacent le monde en 2025. Et donc nous en sommes là pour éviter un changement de frontières. Nous avons bien tombé dans un piège américain aussi là-dedans. Et puis maintenant, on voit que les États-Unis sont capables de changer complètement le fusil d'épaule, d'aller peut-être annexer des territoires ailleurs, sans tenir aucune compte des principes qui nous ont amenés dans cette situation. On répond comment à ça ?
Adeline Percept, vous qui n'êtes pas belge, mais qui avez tout des qualités, comment est-ce qu'on regarde aussi ce sujet-là ?
Ben, moi, j'allais vous poser la question, pourquoi Trump ne ferait-il pas ça ?
Voilà.
Pourquoi ne le ferait-il pas ? Puisque, en réalité, l'Europe est dans une situation économique que Anna a décrite à l'instant, mais c'est surtout que l'Europe est dans une situation limite de faiblesse politique et de faiblesse diplomatique. Et ça vient de quoi ? Ça vient de la crise politique française, essentiellement. Franchement, la voie diplomatique de l'Europe, c'est la France dans le monde. Et la faiblesse politique de l'Allemagne, qui est aussi en pleine campagne électorale. Donc, pourquoi Trump n'en profiterait-il pas pour piétiner un peu ce qui reste de puissance politique à l'Europe et pouvoir faire ensuite jouer avec que des cartes maîtresses.
Justement, est-ce que la voie diplomatique française, elle rayonne encore dans le monde vu de l'étranger ? Est-ce qu'on se dit encore, oui, la France a du poids ? On sait qu'Emmanuel Macron est extrêmement affaibli, mais est-ce que...
Emmanuel Macron s'est tiré des balles dans le pied tout seul au niveau diplomatique. Voilà, il a voulu être le disrupteur de la diplomatie française. Ben, on a vu ce que ça a donné, ça a disrupté la diplomatie. Donc, je veux dire, là, on en est à 7 ans de mandat et on ne peut pas dire que la diplomatie française soit dans un bon état, très loin de là.
Et justement, j'aimerais qu'on réécoute le président de la République. C'était cette semaine, lundi. Écoutez ce qu'il disait à ses vœux aux ambassadeurs.
De 2016 à 2020, la France a su travailler avec le président Trump. Alors nous savons ce sur quoi il y a des désaccords. La question climatique, l'ordre international, Je constate aussi que la première visite à l'étranger du président élu fut pour Paris, Notre-Dame et une discussion stratégique commencée. Je sais aussi une chose, c'est que si on décide d'être faible et défaitiste, il y a peu de chances d'être respecté par les États-Unis d'Amérique du président Trump. Je crois que le président Trump sait qu'il a en France un allié solide, un allié qu'il ne mésestime pas, qui a des vues claires, qui croit dans l'Europe, qui a confiance en lui, qui porte une ambition pour la relation transatlantique, mais une ambition lucide.
Bon, ma question, elle est simple. Est-ce que Emmanuel Macron voit vraiment ce qui se passe avec Donald Trump? Est-ce qu'il y a des éléments, ce qu'il cite, qui permettent de dire que oui, les relations peuvent se réchauffer, ou est-ce qu'on est complètement berné par ce qui est en train de se passer?
Non, mais il y a des éléments de ce que vient de dire Emmanuel Macron qui sont justes. C'est-à-dire, il dit, je retiens quand même sa phrase de dire, si vous êtes défaitiste et faible, il va vous bouffer. Donc il faut montrer qu'on est fort. Mais il faut avoir les moyens de montrer qu'on est fort. Et c'est un peu la deuxième partie du problème. Et là on n'y est pas. Emmanuel Macron, il fait de l'incantation, là.
Oui, l'Europe a effectivement mise à genoux devant les États-Unis. On pense un petit peu à ce qu'étaient les pays satellites de l'Union soviétique. Nous sommes devenus les pays satellites des États-Unis. Je regrette, mais il faut bien constater cela. On aimerait avoir des dirigeants et des institutions européennes avec une colonne vertébrale qui se tient debout et qui fait face aux événements et aux coups de force comme ceux de Trump ou d'autres, ou de Poutine, avec un véritable courage et avec des véritables principes, une véritable défense des intérêts européens et de chaque pays en Union européenne derrière eux, ce qui n'est pas le cas depuis quelques années. Donc ça, c'est un problème. Pour la France, la diplomatie française a toujours été absolument exceptionnelle. Là, sous Macron, effectivement, il y a une chute qu'on ne peut pas nier. D'ailleurs, M. Macron a supprimé le corps diplomatique. Avant cela, déjà, le Quai d'Orsay était très orienté vers les questions de commerce international. Pour cela, il y a une agence, dont je ne me souviens pas du nom, peut-être on pourra m'aider, mais il y a une agence pour défendre le commerce international de la France. Nous avons la même au Portugal, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Mais la diplomatie française avait sa propre originalité, sa propre force, sa propre capacité d'intervention, de négociation, même en coulisses. Une grande partie de la diplomatie, c'est parler en coulisses. La diplomatie française était très bonne là-dedans. Là, maintenant, ça a perdu cette aura.
Benaouda Abdennaïm, vous qui regardez ça de très près au quotidien, est-ce qu'il y a une naïveté européenne et une naïveté française, ou est-ce que derrière le discours officiel, on vient d'entendre Emmanuel Macron, on sait très bien à quoi s'attendre, on sait qui est Donald Trump, on sait dans quelle mesure il faut se méfier aussi?
Bien entendu. Ce sont pas des enfants, ils ont très bien compris à qui ils ont affaire, quel est l'état des forces et de faiblesses de l'Union européenne au sein des relations internationales. Mais il faut feindre maîtriser les événements. De ce point de vue-là, c'est accompagner le mouvement en espérant que Donald Trump ne franchira pas certaines limites qui sont celles de la bienséance dans cette relation transatlantique. Mais il y a aussi toujours cette idée de projeter sa propre vision européenne sur les États-Unis. Les États-Unis n'ont absolument rien à voir avec les États-Unis d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi se berner soi-même pour que finalement ne se pose pas les vraies questions, c'est-à-dire est-ce que X, ex-Twitter, a le droit de continuer à travailler? Est-ce que Meta a le droit de continuer à travailler ou pas au sein de l'Union européenne?
C'est une compétence européenne désormais.
Exactement. Ouais. Est-ce que au lieu d'acheter des F-35, les Européens achètent des avions de chasse européens? Ce sont l'ensemble de ces questions-là auxquelles chacun vraiment fait tout pour ne pas répondre, et ça va continuer de la sorte, sachant que de ce point, et ça a été très bien expliqué, il n'y a plus de légitimité politique dans un certain nombre de capitales européennes
et de leadership,
tout simplement de légitimité politique. Vous avez vu le Premier ministre canadien qui est arrivé au bout d'un parcours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Un certain nombre d'autres chefs d'État en Europe, à Berlin ou à Paris, ne le font pas. Donc c'est aussi ce qui explique l'état dans lequel se trouve l'Union européenne face aux États-Unis.
Merci beaucoup Benaouda et à nos invités d'être venus pour décrypter tout ça ce soir sur BFM Business. Ada Navarro Pedro, journaliste portugaise basée à Paris. Merci beaucoup Adeline Percep, correspondante de la RTBF aussi à Paris. Benaouda
Aouda, éditorialiste international BFM Business. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à votre newsletter. Tous les jeudis, l'envers du globe, vous décortiquez l'actu internationale, vos analyses d'événements passés sous les radars. Qu'est-ce qui vous préoccupe particulièrement en ce moment, Ben Aouda?
Cette semaine, nous avons traité l'Antarctique. On parle beaucoup de l'Arctique, mais le président chilien s'est rendu au pôle sud. C'est la première fois qu'un chef d'État latino-américain avec un brise-glace est allé au pôle sud. Et bien entendu, ça intéresse les Chinois, les Argentins, les Américains, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas que le pôle Nord, il y a aussi le pôle Sud. Ouais. Il n'y a pas que le Groenland, il y a aussi l'Antarctique.
Ah oui, tous les regards en ce moment sont vers le Nord. Regardons vers le Sud avec vous, Ben Aouda, et votre newsletter. Donc, abonnez-vous, vous avez le QR code si vous nous suivez en télévision, sinon c'est pas compliqué. L'envers du globe, vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous retrouvez la newsletter de Ben Aouda qui atterrit directement dans votre boîte mail tous les jeudis. Donc, merci beaucoup, on se retrouve dans un instant pour l'essentiel de l'actualité.
Les experts sans frontières sur BFM Business.